7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Aujourd'hui, on va commencer par une leçon de grammaire. À quoi servent les conjonctions de coordination et de subordination? Comment les reconnaître? Comment mémoriser ces mots? L'enseignante Marie-Christine Aubin nous a préparé quelques petits exercices. Dans la deuxième partie de l'émission, la comédienne Héloïse Auria nous racontera un conte albanais, Les Neuf Frères et le Diable. Et puis nous retrouverons en ligne d'Abidjan le coach de 7 milliards de voisins, Didier Akwete, président d'Afrique Search. Cette émission est réalisée en direct avec une équipe en confinement, Cécile Lavolo et Delphine de Dianous, et en studio, Nicolas Benita et moi-même. Nous attendons bien sûr vos réactions et vos questions sur WhatsApp 33 1 84 22 71 71. Vous aussi les enfants, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Et vous, les parents, dites-nous quels savoirs appris à l'école vous servent aujourd'hui dans votre métier ou votre vie de tous les jours.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Bonjour madame, c'est moi Yvonne. J'ai 11 ans et j'ai retenu les 5 interjections de Marie-Christine. Super, ouf, merci, au revoir, chut. Merci, bonne journée.
Bonjour 7 milliards de voisins. Suite à la leçon de Marie-Christine portant sur les prépositions et les interjections, je voudrais citer quelques prépositions et interjections que j'ai utilisées tout au long de ma journée. Oh, oups, ah, hein, oui, aïe. Ouille. Préposition. À. De. Sans. Pour. Par. Par. En. Sur. Chez. Avec. Coquet Ifemi. En classe de CE2 à l'école Le Berceau des Merveilles à Porte-Novo au Bénin. Merci.
Bonjour, je m'appelle Amadé, je viens du Congo, j'ai 6 ans, je veux vous épeler COVID-19. COVID-19.
La leçon de Marie-Christine sur les interjections a eu beaucoup de succès, vous l'avez entendu, auprès de nos jeunes auditeurs. Je vous lis un message que Toto de Conakry nous a envoyé sur WhatsApp. Le sujet du jour, les conjonctions de coordination, je les retiens et c'est en mémoire comme une chanson. Mais où est donc Ornicard ?
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Chantal.
Comment allez-vous dans votre village?
Je vais très bien. Il a fait très très beau temps. Donc j'ai arrosé mes fruits et mes légumes. Et je me suis déjà régalée de cerises, de fraises, de salades. Je vais bientôt manger mes petits pois et mes pommes de terre.
Eh bien, on vous envie. Alors aujourd'hui, Marie-Christine, vous allez nous parler des conjonctions. Que veut dire ce mot?
Alors, ce mot vient du latin cum, qui veut dire avec, et de jugo, qui veut dire lier, unir. C'est le jugo, c'est le même mot que le mot joue. Vous savez, cette pièce de bois que l'on met sur le cou des animaux pour traîner des outils agricoles.
Dans les champs, oui.
Donc, voilà. Donc, conjonction, ça veut dire attacher ensemble. Deux mots, deux groupes de mots ou deux phrases.
Et il y a deux types de conjonctions, n'est-ce pas?
Oui, il y a les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Alors, je vais expliquer le mot coordination, qui lui aussi vient du latin, on retrouve cum sous sa forme co, qui veut dire avec, et ordino, qui est un verbe qui veut dire mettre en ordre. Donc, coordination, ça veut dire mettre en ordre avec. Alors, au final, la conjonction de coordination sert à attacher ensemble des mots, des groupes de mots, des phrases de même fonction et souvent de même nature.
Alors, quand on dit coordination, on pense au fameux « mais où est donc Ornicard » dont nous parlait Toto tout à l'heure.
Absolument. Comme ça, vous connaissez Ornicard, vous aussi ?
Absolument.
Chantal et le petit jeune homme qui est intervenu tout à l'heure ?
Absolument. Bah, c'est un souvenir d'enfance qui remonte.
Ben oui, c'est le copain de tous les pauvres élèves qui se cassent la tête avec les 7 conjonctions de coordination. Voilà, vous le connaissez, hein, n'est-ce pas, certains d'entre vous ? Ce copain-là qui fait partie des 7 nains que sont les conjonctions de coordination. Bien évidemment, c'est Chantal qui joue le rôle de Blanche-Neige et moi celui de la vieille sorcière.
Alors, rappelez-nous les 7 nains, Marie-Christine.
Alors, il y a « mais ». J'aime le manioc, mais je le préfère sous forme d'attiéké. Ou, veux-tu manger une mangue ou une papaye ? Et, veux-tu une banane et une tranche d'ananas ? Donc, je te laisse donc choisir le fruit que tu préfères. Or, je veux manger 2 mangues, or il n'y en a qu'une. Ni, je ne veux ni papaye, ni mangue. Car, je veux un beignet de banane, car je préfère ce fruit.
Alors, avez-vous maintenant un exercice à nous proposer, Marie-Christine ?
Bien sûr que si. Aujourd'hui, c'est un exercice avec le corps uniquement, auquel les enfants de maternelle peuvent participer. Je vais dire lentement une phrase qui contient « mais où est donc Ornicard ?» Et si vous êtes en famille, chaque fois que vous entendrez une conjonction de coordination, vous donnerez la main à la personne qui se trouve à côté de vous. Si vous êtes seul, vous tapez sur la table si vous êtes dans la maison ou sur l'arbre de la cour si vous êtes en train de prendre le frais dessous. Vous pouvez aussi caresser la tête de votre chien ou de votre chèvre préféré. Je suis sûre qu'ils apprécieront cet exercice de grammaire.
Alors, vous nous lisez la phrase, Marie-Christine, ou bien je la lis ?
Vous la lisez, puis je la répéterai, peut-être.
D'accord. Mamadou est capricieux car il ne sait pas quel fruit il veut manger. Il veut 2 bananes, or il n'y en a qu'une. Il ne veut ni mangue ni ananas. Il va donc avoir une banane, mais il préfère la manger en beignet. Je ne sais pas si je vais céder et faire des beignets ou si je vais le gronder.
Bon alors, les enfants, vous avez entendu une première fois cette phrase. Donc, chaque fois que vous entendrez « mais, où, et, donc, or, ni, car », vous tenez la main ou vous caressez l'arbre, la table, le chien, la chèvre. Alors, je redis plus lentement. « Mamadou est capricieux car il ne sait pas quel fruit il veut manger. » Il veut 2 bananes, or il n'y en a qu'une. Il ne veut ni mangue, ni ananas. Il va donc avoir une banane, mais il préfère la manger en beignet. Je ne sais pas si je vais céder et faire des beignets, ou si je vais le gronder.
Alors les enfants, combien de conjonctions de coordination avez-vous entendues?
Moi, j'en ai caché 8 dans cette phrase.
Ben voilà, on espère que les 8 auront été repérés par nos petits auditeurs. Maintenant, Marie-Christine, pouvez-vous nous parler des conjonctions de subordination?
Oui, subordination vient du latin sub, qui veut dire sous, en ce cas avec une idée de dépendance, d'obéissance, et de ordinatio, qui veut dire mettre en ordre. Donc, mettre en ordre en fonction d'eux. Alors, les conjonctions de subordination et les locutions conjonctives de subordination sont utilisées dans des phrases composées de deux morceaux. La partie principale qui exprime l'action faite par le nom et la deuxième partie qui explique les détails de l'action principale.
Marie-Christine, quelle est la différence entre conjonction de subordination et locution conjonctive de subordination? Locution conjonctive, ça paraît un peu compliqué.
C'est très facile en fait. Donc locution, ça vient encore du latin, du verbe loquor, qui veut dire parler. Et parler un petit peu sans cesse, hein. Donc, bon, est composé de deux ou trois petits mots. Par exemple, si je dis « cependant que », là j'ai deux mots. Si je dis « c'est pourquoi », j'ai trois mots. Voilà. Donc, ça a exactement la même fonction que lorsqu'il n'y a qu'un mot qui exprime la conjonction de subordination.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de conjonctions de subordination et de locutions de subordination?
Voilà. Alors, donc, comme je l'expliquais, la conjonction de subordination introduit la deuxième phrase qui explique les détails de l'action principale. Donc, par exemple, elle explique quand est-ce que se passe l'action principale. Donc, on introduira la deuxième partie par « quand ». Pour la cause, quand on explique pourquoi cette action principale s'est produite, on dit « pourquoi ». Quand on explique de quelle manière s'est produite l'action principale, on utilise « comment ». Quand on explique quelle est la condition qui a provoqué l'action principale, on dit « si ». Quand on explique dans quel lieu s'est passée l'action principale, on utilise « où ». Quand on explique quelle est la concession qu'introduit l'action principale, on dit « bien que ». Quand on explique quelle est la conséquence de l'action principale, on dit « c'est pourquoi ». Quand on explique le but pour lequel on a fait l'action principale, on dit « afin que ». Et quand c'est une opposition qu'exprime l'action principale, on dit « cependant que ».
Alors, on va prendre un exemple hein, pour illustrer, pour que ce soit plus clair. Je vais vous lire une phrase qui regroupe toutes ces conjonctions de subordination et ces locutions conjonctives de subordination. « J'irai voyager à condition que j'aie 18 ans afin de connaître d'autres pays. Je partirai quand la saison sera sèche, bien que la chaleur soit fatigante. C'est pourquoi je prendrai le train, cependant qu'il serait peut-être mieux de prendre le bus, parce qu'il s'arrête dans tous les villages où je pourrais rencontrer des personnes. Mais comment vais-je faire, puisque je n'ai pas d'argent ? Se désole Habiba. » Marie-Christine, comment faire pour savoir quand le mot « que » et quand le mot « si » ont le rôle de conjonction de subordination ?
Vous faites bien, Chantal, d'aborder cette difficulté. Parce que effectivement, que est aussi un pronom relatif qui représente un groupe nominal ou un pronom. Par exemple, la mangue que j'ai mangée était excellente. Donc dans cette phrase, que représente la mangue.
Et du coup, on accorde le participe passé avec le sujet qui est la mangue. Donc, la mangue que j'ai mangée et eux.
Était excellente, voilà, et eux. Alors, si est aussi un adverbe interrogatif. Aïssa ne sait pas si elle ira bientôt à l'école. Donc, dans ce sens-là, si est un adverbe interrogatif.
Est-ce que vous avez... Donc, oui, allez-y,
oui,
ma Chris.
Oui, oui. Oui, c'était pour reprendre que j'irai à l'école si le gouvernement décide de rouvrir les écoles. Donc là, c'est la condition.
Voilà, on a bien compris la différence entre les deux. Est-ce que vous avez un exercice à nous proposer, Marie-Christine ?
Oui, alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de grammaire sportive.
Waouh, quel programme !
Oh, ça change du papier et du crayon. Alors, comme il s'agit d'une respectueuse obéissance, la subordination, vous avez peut-être déjà entendu vos parents qui sont directeurs d'une banque ou d'un commerce ou qui travaillent dans des bureaux, ils parlent de leurs subordonnés. Ce sont les personnes qui travaillent sous leurs ordres. Voilà, c'est un mot qui s'utilise fréquemment. Donc, comme il s'agit, donc la subordination est une respectueuse obéissance, vous allez mettre à genoux en terre et courber la tête chaque fois que vous entendrez une conjonction de subordination. Voilà, c'est comme ça que faisaient les chevaliers autrefois devant leur seigneur en Europe. Alors, vous allez être debout et chaque fois que vous entendrez une conjonction de subordination, une locution de subordination, vous mettrez un genou en terre et puis vous étirerez bien votre dos quand vous courberez la tête. Comme ça, ça fait un petit peu de détente du corps, de gymnastique.
Ok, alors on commence. Voici la phrase. Comment vais-je faire pour aller au marché puisque je n'ai pas de voiture ? À condition que je me lève à 6 heures, j'irai vendre mes légumes avant qu'il ne fasse trop chaud sur la route, dans la mesure où il faut que j'y aille à pied. Quoique je pourrais y aller sur une moto-taxi, si j'avais déjà l'argent de ma vente. C'est une bonne idée que j'utiliserai lorsque je rentrerai du marché, après que j'aurai vendu mes légumes, à supposer que je les vende tous. Alors les enfants, on a envie de savoir comment vont vos genoux après toutes ces flexions. Vous nous enverrez des messages sur WhatsApp pour nous dire si vous avez bien plié le genou en entendant comment, puisque, à condition que, avant qu'il, dans la mesure où, quoique, si, lorsque, après que, et enfin la dernière, à supposer que. Marie-Christine, nous vous disons au revoir et à bientôt, puisque vous nous parlerez lundi prochain des adjectifs et des pronoms possessifs.
Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à lundi prochain. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de faire le petit exercice, parce que c'est un petit peu rapide peut-être pour vous. Hein.
Et ben on verra en fonction des messages qu'on va recevoir sur WhatsApp. Au revoir Marie-Christine, bonne journée.
Au revoir.
À toucher le bas. faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va.
Comment est ta peine ? Premier single, extrait du prochain album de Benjamin Biolay, Grand Prix, qui sortira le 26 juin. Vous êtes sur RFI, 7 milliards de voisins, l'école à la radio, émission spéciale en cette période de confinement ou de déconfinement prudent. C'est le moment de la récré à présent. On va s'évader avec la comédienne Héloïse Auria qui nous raconte Les Neuf Frères et le Diable d'Iqbal Bajraktari. C'est un conte d'Albanie, ce petit pays d'Europe de l'Est. Il est publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Contes des Quatre Vents.
Je m'appelle Kenja. Je vais inventer une histoire.
Il était une fois.
Les Neuf Frères et le Diable. Un conte d'Iqbal Bajraktari. Collection Contes des Quatre Vents aux éditions L'Harmattan. Alim et Fatimé ont 8 filles. Lindita, Aferdita, Florentina, Merita, Doruntina, Fiona, Vlora et Albiona. Ils sont heureux et sans histoire, mais le père voudrait tant chérir un garçon. Fatimé attend son 9e enfant. Son mari lui dit « Écoute, femme, je dois partir à la guerre, mais en revenant chez moi, je veux entendre dans ce berceau les cris d'un garçon. » Quelques mois plus tard, sur le chemin du retour, Alim rencontre Selim, son voisin.
Que le retour parmi les tiens te soit doux et agréable, j'ai le plaisir de t'annoncer la nouvelle. Dans le berceau dort, comme un ange, une belle petite fille, Valbona. Qu'elle aille au diable !
Crie le père fâché. À peine le père a-t-il prononcé les mots maudits que le diable apparaît et lui dit « Merci, Effendi. Je reviendrai chercher Valbona le jour de ses 17 ans pour faire d'elle mon épouse. » Puis il disparaît, laissant derrière lui une odeur de soufre. Valbona grandit. Elle a 17 ans aujourd'hui. Le père a oublié ce qu'il avait dit, mais pas le diable. Il apparaît. « Bonjour, Effendi. Je viens prendre ce qui m'appartient. » Et le diable s'envole en emportant Valbona très loin derrière la colline. Toute la famille pleure sa disparition. Après cette disparition mystérieuse, des villageois disaient qu'ils avaient aperçu le fantôme de Valbona près du lieu dit « la grotte du diable » et qu'elle hurlait la nuit. Un jour, Alim part pour la grotte. Après des heures de marche, fatigué, il s'assied sur un rocher. C'est là que l'ombre de sa fille lui apparaît.
« Ma fille, Valbona, est-ce bien toi ? Tu es si pâle et si fatiguée. Que t'ai-je fait ? » ?»«
Oui, père, c'est moi, ta fille. Je suis ligotée et enfermée par le diable jour et nuit dans ce trou noir. » Il a peur que je me sauve. Je t'en prie, père, si tu m'aimes encore, viens me délivrer.
L'ombre de Valbona disparaît, laissant le père seul avec son chagrin. Le père revient à la maison en se lamentant.
Que je sois maudit, j'ai donné ma fille au diable.
Au loin, il aperçoit une vieille femme près de la fontaine qui essaie de porter sur ses épaules deux grandes cruches pleines d'eau.
« Attendez, ma bonne mère. Laissez-moi vous aider, ces cruches sont bien trop lourdes pour votre dos. »«
Qu'Allah te protège, mon fils. Je t'observe de loin et tu me sembles très inquiet. Un malheur t'a-t-il frappé ? Raconte-moi. »«
J'ai donné ma fille au diable et par ma faute, elle est malheureuse. Je viens de la revoir, elle était si pâle. » Je n'ai pas pu rester près d'elle. C'est pour cela que je pleure.
Rentre chez toi, mon fils, et ne t'inquiète plus. Pour ta peine, tu vas devoir attendre 2 semaines. Après, tu reviendras ici même, près de la fontaine. Va maintenant et rassure ta famille.
La vieille femme, arrivée chez elle, va chercher 2 vieilles aiguilles et une pelote de laine. Elle a 9 fils. Elle s'assied près de la cheminée et se met à chanter une vieille chanson.
Mes larmes ne sont pas encore séchées depuis que nous nous sommes quittés. Sans toi, le jour me semble une année. Sans toi, le soleil ne brille plus jamais.
C'était une chanson de sa jeunesse qu'elle n'avait pas oubliée. Tout doucement, Ramiz, l'aîné, se rapproche d'elle pour lui demander « Mère, que fais-tu là ? » ?»«
Mais tu vois bien, mon fils, je fais des chaussettes. » »«
Mais pour qui les fais-tu ? » ?»«
Pour le plus courageux d'entre vous, mon fils. » »«
Mère, le plus courageux de tes fils, c'est moi. Tu le sais, non ? » ?»«
Ah oui ? Et en quoi es-tu le plus courageux, mon fils ? » ?»«
Tu sais aussi que c'est moi le plus intelligent, car je sais où est la maison du diable. » »«
Alors va, mon fils, elles seront pour toi, ces chaussettes. »
Kazim, le second de ses fils, s'empresse de venir auprès de sa mère.
« Mère, que fais-tu exactement ?»«
Tu vois bien, mon fils, je tricote des chaussettes. »«
Mais pour qui fais-tu ces chaussettes, mère ?»«
Pour le plus courageux d'entre vous. »«
Le plus courageux, mère, tu le sais, c'est moi. »«
Ah oui ? Et en quoi es-tu le plus courageux ?»«
Moi, mère, je suis si délicat que je suis capable de retirer les bottes du diable sans même qu'il s'en aperçoive. »«
Va, mon fils. » Va, elles seront pour toi, ces chaussettes.
Farouk, le troisième, se précipite à genoux près de la vieille femme
et lui demande tout doucement « Mais pour qui fais-tu ces chaussettes, mère ?»«
Pour le plus courageux d'entre vous. » »«
Le plus courageux, mère, tu le sais, c'est moi. » »«
Ah oui, et en quoi es-tu le plus courageux ?»«
Moi, mère, je suis le lanceur le plus extraordinaire. » Je peux jeter les bottes du diable, l'une au pays où le soleil se lève et l'autre au pays où le soleil se couche.
Alors va, mon fils, va, elles seront pour toi, ces chaussettes.
Le quatrième, Roustem, lui, peut retirer le veau du ventre de la vache avec tellement de délicatesse que la vache ne sentira rien du tout. Le cinquième, Sokol, est tellement fort qu'il peut porter tous ses frères sur son dos et courir plus vite que l'éclair. Le sixième, Naïm, grâce à son adresse, c'est construire une grande tour en pierre pour que tout le monde soit bien à l'abri. Le septième, Petri, peut détruire aussi vite cette tour que Naïm vient de construire. Le huitième, Bessim, est si précis qu'il peut même toucher un merle en plein vol. Skender, le cadet, peut attraper au vol l'œuf que le merle vient de pondre avant même qu'il ne s'écrase au sol. Alors la vieille leur dit
« J'ai une chose très importante à vous demander. » L'autre jour, près de la fontaine, j'ai rencontré un homme. Il était malheureux car par sa faute, le diable a emporté sa fille. Il veut la retrouver mais il ne sait pas comment faire. À celui qui me ramènera cette fille, je donnerai les chaussettes. »
À peine a-t-elle fini de parler que tous demandent à Ramiz « Montre-nous toi qui sais tout, où se trouve cette maison du diable ?» Sans hésiter, Ramiz conduit aussitôt ses frères à la grotte du diable. Dans ce trou, le diable dormait profondément. À côté de lui, gisait Valbona, les mains et les pieds liés. Délicatement, Kazim retire les bottes du diable sans le réveiller. Aussi vite, Farouk les prend et les jette. L'une au pays où le soleil se lève et l'autre au pays où le soleil se couche. Pendant ce temps, Roustem délie les mains et les pieds de la fille avec une telle délicatesse que le diable ne l'entend même pas. La pauvre fille tremblait.
« N'aie pas peur, » lui dit Roustem. « Nous sommes là pour t'aider. » Puis tous les frères quittent la grotte avec Valbona.
Quelques heures plus tard, le diable se réveille. Valbona a disparu. Il cherche ses bottes et ne les trouve pas. Furieux, il sort pieds nus en jurant. En entendant les cris du diable, Sokol, le plus fort des frères, met tout le monde sur son dos et court aussi vite que l'éclair. Mais le diable se rapproche rapidement. Naïm construit rapidement une tour en pierre. Le diable arrive au pied de la tour et d'une voix mielleuse murmure.
« Bon, bon, vous avez gagné. Mais avant de partir, j'aimerais quand même voir le visage de mes ennemis. Faites-moi seulement un tout petit trou, aussi petit que la tête d'une aiguille. »
Les frères crédules acceptent. Le diable qui passe partout s'y faufile, bondit sur Valbona et s'envole avec elle vers le ciel. Aussitôt, Petri souffle de toutes ses forces et détruit la tour. Alors Bessim prend son pistolet, vise le diable, tire et le touche en plein cœur. Aussitôt, le diable tombe en lâchant la jeune fille. Skender tend les bras et Valbona s'y pose aussi légère qu'une plume. Sourire aux lèvres, ils se regardent. Les yeux dans les yeux, ils oublient les autres frères. Deux semaines plus tard, comme l'avait demandé la vieille femme, le père attend près de la fontaine. Surpris et heureux de revoir sa fille en bonne santé, il les remercie tous. La bonne mère lui dit tout bas avec un sourire malicieux.
« Je crois que bientôt nos chemins vont se croiser à nouveau. »
Dès que Halim et Valbona sont partis, la vieille femme s'adresse à ses fils.
« Mes fils, vous avez tous été formidables dans cette affaire. Vous avez mené un combat juste et je suis fière de vous. En libérant cette jeune fille des griffes de ce méchant diable, vous avez rendu un père heureux. Mais,
poursuit-elle en soulevant un peu sa jupe, ce qui surprit ses garçons,
des chaussettes chaudes pour l'hiver, je n'en ai qu'une paire. Et pour mes vieilles jambes, pleines de rhumatisme, je crois qu'elles feront bien mon affaire.
Tout en riant, elle retourna vaquer à ses occupations, en fredonnant sa vieille chanson.
Mes larmes ne sont pas encore séchées depuis que nous nous sommes quittés. Sans toi, le jour me semble une année. Sans toi, le soleil ne brille plus jamais.
Merci Héloïse Auria de nous avoir raconté Les Neuf Frères et le Diable d'Iqbal Bajraktari, un conte albanais publié chez L'Harmattan dans la collection Contes des Quatre Vents. Je vous lis deux messages qu'on a reçus sur WhatsApp juste après la leçon de grammaire de Marie-Christine Aubin. Message d'Evariste qui habite à Bafoussam au Cameroun. Merci à Marie-Christine pour ce goût de la langue française qu'elle aiguise quand on l'écoute à travers sa bonne connaissance et son très bon maniement de la langue française. Et puis un message d'Elimane qui habite au Sénégal. Juste pour vous dire que je suis en ligne en ce moment. En effet, avec les conjonctions de coordination et conjonctions de subordination, les souvenirs d'enfance remontent véritablement à la surface. Voilà deux messages qui vont faire plaisir à Marie-Christine. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, vos messages, vos questions sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
C'est l'heure à présent de retrouver le coach de 7 milliards de voisins, Didier Akwété, président d'Afrique Search. Bonjour Didier.
Bonjour Chantal.
Didier, Ismaël à Bamako a besoin de vos conseils, alors je vous propose de l'écouter.
Bonjour à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Bonjour Didier, je m'appelle Ismaël Touré, j'habite à Bamako. Je suis rentré au pays après 12 ans passés en Chine. Je vais lancer deux projets en même temps. Déjà, ma question est de savoir si c'est une bonne idée. Mon projet principal est une ferme de pondeuse afin de produire des œufs qu'on va livrer à Bamako où la demande est importante. J'ai commencé à me fournir auprès d'une ferme en matière de œufs que je livre déjà à des clients, même en petite quantité, histoire de fidéliser une liste de clientèle. Mon second projet est d'avoir un restaurant pour ainsi lier les deux projets. Je n'ai pas de liquidité pour bien débuter mon projet. Je voudrais faire un emprunt bancaire. La banque me demandera certainement une garantie. J'ai une maison que je voudrais faire comme un apport garanti. Mes questions sont... Vu la pandémie et les conséquences de la crise, est-ce le bon moment de faire cet emprunt bancaire? En second lieu, en cas de réponse positive de la banque, lancer les deux projets en même temps, est-ce une bonne idée? Merci de vos conseils et à très bientôt.
Didier, est-ce que c'est une bonne idée de lancer des projets, et en particulier ces deux projets hein, d'Ismaël, vu le contexte économique lié bien sûr à la crise du coronavirus?
Alors, c'est vrai que le contexte économique est plutôt difficile, hein, et on le voit dans tous les pays. On va rentrer en récession, probablement même en Afrique. En tout cas, les taux de croissance vont être très faibles, avec probablement des ménages qui vont peut-être s'appauvrir, un secteur informel qui a beaucoup souffert du lockdown, des banques qui vont avoir des bilans qui ne seront, par mon avis, extrêmement positifs cette année. Donc le contexte est un peu difficile. Maintenant, concernant Ismaël, deux projets à la fois, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain compte tenu du contexte que j'ai indiqué, honnêtement. Déjà, un projet, c'est beaucoup. Deux projets à la fois, c'est peut-être pas si simple que ça.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces deux projets? Est-ce que l'un vous semble plus intéressant, peut-être plus facile à réaliser que l'autre?
Alors, je pencherai pour son projet de ferme de pondeuse de... pourquoi pas un restaurant? Vous savez, avec le Covid, je me méfie un peu des restaurants parce que même si elle reprit, je ne suis pas sûr que les gens vont se ruer vers les restaurants automatiquement. Et il y a quand même beaucoup de restaurants, sauf s'il apporte une spécificité. Et puis la deuxième raison aussi, c'est que il n'y a pas forcément de lien entre son projet de ferme de pondeuse 2 et le restaurant. S'il me dit je monte un restaurant pour ne proposer que des œufs, des plats à base d'œufs, je comprendrais. Donc si les activités se complétaient, why not? Mais ce n'est pas le cas. Les deux activités peuvent être distinctes. Donc je ne sais pas pourquoi il veut forcément se lancer dans ces deux activités. Donc je pencherais plutôt pour son projet de pondeuse 2 pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que de manière globale, hein, l'agriculture connaît un essor important dans le pays, y compris au Mali. Et je me souviens que j'avais participé à une conférence sur l'investissement au Mali, et c'était un des projets qu'ils ont encouragé les jeunes à développer, parce qu'il y a des opportunités. La deuxième raison, c'est que il y a probablement d'abord bien sûr le marché, dont il peut toujours valider, mais aussi probablement le fait que l'investissement peut ne pas être lourd, mais j'y reviendrai après. Mais aussi, c'est qu'il a déjà commencé l'activité. Voilà, il dit, j'achète des œufs, je les livre, donc je commence à me constituer une clientèle. Donc il a commencé un projet, il faut qu'il aille plus loin, il faut qu'il continue et en fasse justement un vrai projet d'entreprise. Mais voilà. Là, je vais peut-être le prévenir.
Voilà. Oui, Chantal. Oui, il faut qu'il se lance à fond dans ce projet. Donc, ce projet de ferme avec des poules qui vont pondre des œufs qu'il va ensuite livrer à ses clients.
Oui, c'est ça. Et donc, j'allais le dire, il peut en faire un vrai business. Mais attention, quel que soit le business, je le rappelle toujours, il faut qu'il comprenne bien son marché. Bien sûr, on dit que le marché est en croissance, mais à qui va-t-il vendre ses produits? Est-ce qu'il va se tourner plutôt vers les ménages, plutôt vers les restaurants qui vont rouvrir, les hôtels qui vont peut-être rouvrir, des revendeurs? Donc, il faut qu'il revoie son marché pour bien cibler ses clientèles.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un business plan. Hein. Il faut bien se fixer des objectifs avec des clientèles.
C'est vrai. Et dans ce business plan, il y a d'autres volets. Il y a quand même des coûts. Aujourd'hui, est-ce que dans son business, il a bien fait son évaluation des coûts? Pour faire ce business, il faut un terrain, il faut des installations techniques. Combien de poules pondeuses va-t-il acheter pour démarrer? Le stock d'alimentation, parce qu'il faut nourrir les poules pour qu'elles puissent pondre. Il faut consacrer du temps. L'hygiène dans les poulaillers est extrêmement importante, avec un nettoyage régulier. Donc, ce sont des éléments qui sont importants, quel que soit le projet. Et puis, vous parlez de business plan, la rentabilité de son business. Dans ce business, il y a plusieurs facteurs. La taille de l'exploitation, le coût des investissements de départ, le coût d'achat des aliments, le taux de perte. Vous savez, j'ai dû passer parfois des exemples de projets de ce type où on a perdu les poules parce qu'il y a des maladies, des épidémies qui ont ramagé complètement le poulailler. Les vides sanitaires obligatoires, la qualité des eaux. C'est autant d'éléments sur lesquels Ismaël doit bien travailler pour élaborer son business plan et savoir dans quelle mesure son projet va être rentable avant même d'aller voir un banquier. Donc, c'est pas si simple que ça, même si on se dit on achète des œufs, on vend, là il fait de l'acharnement, c'est très simple, mais quand il va rentrer dans une structure un peu plus industrielle, ça demande également d'autres éléments qu'il faut qu'il prenne en considération.
Alors dans son message, Ismaël expliquait qu'il allait avoir besoin de liquidités, donc d'argent pour financer son projet. Est-ce que c'est le bon moment pour demander un prêt à la banque? Et est-ce que l'emprunt bancaire est la meilleure solution pour Ismaël?
Alors, la première question, les banques sont frileuses actuellement à cause de la pandémie du Covid, parce que beaucoup d'entreprises font défaut, des ménages, des employés ont été licenciés. Donc globalement, les banques ne devraient pas faire une superbe année 2020. Donc forcément, les banques sont beaucoup plus frileuses pour prêter déjà des PME et encore moins à des entrepreneurs qui n'ont pas encore fait leur preuve sur leur marché. Donc la banque, forcément, ne sera pas la solution, à mon avis, idéale, compte tenu du fait que le projet est nouveau. Maintenant, Ismaël est un entrepreneur, et ça c'est ce qui est déjà bien, il faudrait qu'il essaie de trouver d'autres sources de financement, même s'il fait un business plan qu'il propose à la banque, il n'y a pas de problème. Il y a par exemple ce que j'appelle les financements de proximité, ce qu'on appelle friends and family, donc les amis, la famille, même la tontine, ou même la microfinance, peut-être même la mésofinance, on commence déjà à rentrer dans le système bancaire, mais la banque ne peut pas être sa seule solution, à mon avis, vu le contexte. Et puis, je vois tous les gouvernements qui essaient de lancer des programmes de soutien aux PME, aux TPE, aux jeunes entrepreneurs. Il faut qu'ils regardent également ces programmes, s'ils peuvent avoir un peu d'argent gratuit, ou alors voir les agences de soutien aux PME ou aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir des petits financements qui permettent de lancer les activités. Mais honnêtement, la banque, je ne suis pas sûr que la banque actuellement soit très généreuse vis-à-vis des porteurs de projets.
Alors, autre question que se posait Ismaël, la maison peut-elle servir de garantie ou est-ce que vous avez une autre solution que vous pourriez conseiller à Ismaël?
De toute évidence, les banques sont tellement frileuses en général vis-à-vis des PME et des porteurs de projets, des entrepreneurs, que les banques, à moins que son projet ne soit le projet de l'année, les banques vont lui demander une garantie. généralement, on va vous demander d'ouvrir ce qu'on appelle un compte épargne avec un dépôt à terme, qui sera l'équivalent de ce qu'on va vous prêter. Mais bon, si vous avez cet argent, pourquoi aller voir une banque? Ou alors, effectivement, on va vous demander ce qu'on appelle un collatéral, donc quelque chose qui vienne en garantie. Et c'est vrai, la maison, le terrain, peut servir de garantie pour la banque. C'est une sorte de caution, mais les banques sont de plus en plus frileuses à prendre en maison, en terrain, en garantie. Sauf si c'est un terrain qui est super bien situé, une maison dans un endroit premium, qui font que s'il fait défaut, s'il ne rembourse pas, la banque peut vendre ça rapidement. Sinon, les banques ont dans leur portefeuille des tonnes de terrains, des tonnes de maisons, qu'elles n'arrivent pas à vendre bien souvent. Donc, il peut toujours proposer, mais ce n'est peut-être pas ce que la banque acceptera. Donc peut-être qu'il faut qu'il regarde d'autres systèmes de garantie.
Par exemple,
j'en parle autrefois, il y a une organisation qui s'appelle African Guarantee Fund, le fonds africain de garantie, qui justement a mis en place des lignes de garantie auprès des banques pour plus de 700 milliards de CFA. Et donc, il peut aller voir des banques à Bamako qui sont en partenariat avec EGF pour dire, écoutez, je sais que si EGF a une ligne de garantie auprès de vous, est-ce que vous pourriez financer mon projet et puiser sur la ligne de garantie avec un petit taux, bien sûr, qu'on appelle, enfin c'est un taux dont on ne va pas lui parler, mais qui fait partie de la garantie et qui assurait la banque. Donc ça peut être une condition, ou alors il peut trouver peut-être un oncle ou quelqu'un qui peut se porter fort et qui serait le garant. Comme ça, si Ismaël fait défaut, on sait qu'on pourra toujours aller chercher celui-là pour qu'il puisse rembourser à la place d'Ismaël.
Merci beaucoup Didier Akwété pour ces précieux conseils à Ismaël. Didier Akwété, coach de 7 milliards de voisins et président d'Africa Search. On vous retrouve mardi prochain pour d'autres conseils à nos auditeurs. Bonne journée à Abidjan.
Avec grand plaisir. Merci Chantal.
Demain, suite de l'école à la radio, vous retrouverez à ce micro Emmanuel Bastide avec la classe d'Adama Keïta et des problèmes de maths. La comédienne Héloïse Auria qui nous racontera une autre histoire. Et puis la chronique de la psychopédagogue Joëlle Alarcon, à chacun son cerveau. Bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 sur WhatsApp. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver plein d'autres ressources pour continuer à apprendre sur le site de RFI Savoir. Bonne journée à tous, à bientôt et portez-vous bien. Avec Cacao, votre